Bonjour mes chers auditeurs, nous nous retrouvons comme d'habitude pour chaque mois et cette fois-ci nous allons parler de l'Iran et de l'atome. C'est une question d'actualité, comme vous le savez. Les sionistes ont réussi à persuader l'Occident que l'Iran voudrait avoir la bombe atomique pour rayer de la carte Israël en s'appuyant sur une phrase tronquée d'Ahmadinejad qui avait dit « Si Israël nous attaque, nous n'hésiterons pas à détruire ce pays ». Ils n'ont conservé que la seconde partie de la phrase. En réalité, la politique iranienne en matière nucléaire est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il faut savoir que les besoins en pétrole et en gaz naturel croissent d'année en année. Or, nous allons vers un épuisement des énergies fossiles, du pétrole d'abord, du gaz ensuite, et enfin du charbon. En ce qui concerne l'Iran, ses ressources en pétrole sont évalués à 137 milliards de barils. La production est de 4 millions de barils par jour, dont 2,6 millions sont exportés. L'Iran possède aussi 28 376 milliards de mètres cubes de réserves de gaz. La production annuelle est de 437 millions de mètres cubes, dont 53% servent à la production d'électricité. Or, la consommation interne du pétrole et du gaz ne cesse d'augmenter. D'ici 10 ans, la production de pétrole ne suffira pas à satisfaire les besoins du pays. L'Iran deviendra importateur de pétrole, alors qu'aujourd'hui, les exportations de ce produit fournissent un tiers du budget de l'État. Aujourd'hui, la consommation d'électricité iranienne est de 38 000 mégawatts par an, dont 94% sont fournis par les hydrocarbures et par le gaz. Dans 10 ans, la consommation se situera entre 70 et 80 000 mégawatts, c'est-à-dire qu'elle aura doublé. La situation est donc intenable. C'est pourquoi, d'ailleurs, tous les grands pays, à commencer par la France, sont passés ou passent au nucléaire. 79% de l'électricité française est fournie ainsi. Aux États-Unis, c'est 20%, mais Obama veut accroître notablement cette proportion. Il y a près de 500 réacteurs nucléaires civils dans le monde. L'Iran, qui possède les mines d'uranium les plus importantes du Moyen-Orient, ne peut échapper à ce dilemme, d'autant que les coûts de production d'électricité nucléaire sont les plus bas de tous. Ce pays doit donc se doter coûte que coûte de centrales nucléaires civiles, afin de diminuer la part du pétrole et surtout du gaz dans la production d'électricité. En 1959, les États-Unis ont fourni un petit réacteur nucléaire à Téhéran. En 1974, le Shah a décidé de donner un coup de fouet à la création d'énergie atomique en dotant son pays de centrales pouvant produire 23 000 mégawatts d'électricité. Il prit une participation de 10% dans le capital de Rodif. L'Iran négocia à la même époque avec la France un contrat de 10 milliards de francs pour la construction de centrales à Ahwaz et un autre de 8 milliards de Deutsche Mark avec l'Allemagne pour l'édification de 2 centrales nucléaires à Béchère. Il était prévu aussi la construction de 21 réacteurs. Mais la révolution entraîna la rupture de ces contrats de la part de la France et de l'Allemagne, dont l'attitude, il faut bien l'avouer, ne fut pas très élégante. Après la disparition de Khomeini, qui était un obscurantiste dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les Iraniens décidèrent sous l'égide de l'AIEA de reprendre ce programme. La centrale de Béchère fut achevée en 2008, mais pour marcher, les centrales, comme vous savez, exigent de l'uranium enrichi, qu'il faut produire sur place, sinon on est sous la dépendance des pays étrangers. D'où la construction d'usines d'enrichissement à Ispahan, et à Natanz. Cependant, notons bien qu'à la différence de l'Inde, du Pakistan ou d'Israël, l'Iran n'a jamais dissimulé ce qu'elle faisait. L'AIEA, dont le siège est à Vienne, a été mise au courant de tout. Les inspecteurs de cette agence sont venus souvent à l'improviste pour effectuer des contrôles et ils ont posé des caméras de surveillance. Sous la pression américano-sioniste, Paris, Londres et Berlin ont refusé de tenir compte de la bonne foi iranienne. Pourtant, El-Baradei, le précédent président de l'AIEA, avait assuré que le programme nucléaire iranien était uniquement civil. Mais Israël, qui dispose de centaines d'ogives nucléaires, veut faire croire au monde que la construction de ces centrales est dangereuse pour sa sécurité, ce qui est absurde. Car, compte tenu de l'avance stratégique de ce pays, même si l'Iran se dotait d'un armement nucléaire, il ne pourrait pas s'en servir contre Tel Aviv, car il serait rayé de la carte dans les minutes qui suivraient. Le problème pour l'Iran, c'est qu'une grossière campagne de diabolisation a été menée contre ce pays. Après Nasser, on veut nous faire croire qu'Ahmadinejad est un nouvel Hitler, ce qui est grotesque. Faut-il rappeler que 40 000 juifs vivent en paix en Iran et qu'Ahmadinejad a revendiqué lui-même ses origines juives en rappelant que ses parents se sont convertis à l'islam en 1950. Toute cette campagne contre l'Iran relève donc du mensonge et de la calomnie. Au revoir, mes chers auditeurs, et au mois prochain.